טוב, בעזרת השם, אוג'ורג'י סלע אילולה ורבי ישראל אבו חצירה עליו השלום והבסה לזכותו תגן עלינו, אמן. On est le mérite d'avoir sa lucidité et sa vision profonde de tous les événements qui accompagnent notre vie. Nous sommes dans une charnière très importante au niveau du temps. Et vous voyez les événements qui s'accélèrent dans tous les domaines. En réalité, Akadosh Baruch Hu est en train de descendre sur terre, de descendre, c'est-à-dire de se révéler. Il ne se déplace pas puisqu'il remplit l'univers tout entier. Mais il y a une révélation qui est en train de se faire de plus en plus grande. Et nous sommes témoins et nous sommes acteurs de notre histoire. Ce qui n'était pas le cas lorsque nous étions à l'extérieur de notre terre. Ici, sur la terre d'Israël, nous sommes un peuple, une nation, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il nous ne demande pas d'être religieux, il nous demande d'être une nation sur sa terre qui applique les lois du ciel, qui sont les lois de la Torah. Ce n'est pas pareil. Si Akadosh Baruch Hu se suffisait d'une religion, il aurait laissé Abraham Avinu là où il était tranquillement, puisqu'il était déjà tzaddique et qu'il faisait la Torah et les mitzvot bien avant la Torah. Mais ça ne suffit pas. Kadosh Baruch Hu lui dit, Lech lecha, je veux que tu partes parce que je veux faire de toi ve'aritra le goy gadol, une grande nation. Et une grande nation, elle a un rôle. C'est de dévoiler la lumière de Dieu sur terre, comme a dit hier le président américain. Le peuple d'Israël, c'est la lumière des nations. C'est-à-dire que c'est une prophétie. Or, la Goïm, donc nous voyons que nous sommes, Baruch HaShem, dans un processus qui avance très vite. Et c'est pour ça aussi que le monde est en train de se... Okay? Il y a une panique totale dans tous les domaines. Même la nature est en train de se remettre en place parce qu'un nouvel ordre est en train de descendre sur Terre. Donc tout ce qu'on ne... connaissait pas jusqu'à maintenant, va être connu. Et tout ce que nous connaissions, qu'on pensait connaître jusqu'à maintenant, va changer radicalement. Bien entendu, ça va passer par des turbulences pas évidentes. Et Baruch HaShem, nous sommes là. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Le but de ce cours ce soir, c'est de faire le lien entre les sections de la Torah que nous sommes en train de lire, qui traite de la sortie d'Égypte, et en même temps de savoir que nous sommes dans un mois qui est très spécial dans sa nature. Le mois de Shvat est un mois qui est relié naturellement à la terre. Vous savez qu'il y a 5 livres dans la Torah, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim. Et le 5e livre de la Torah, Dvarim, qui traite de la Torah sur la terre d'Israël, a été écrit ce livre par Moshe Rabbeinu quand le mois de Shvat. Rosh Chodesh Shvat, Moshe Rabbeinu a commencé à écrire le 5e livre de la Torah qui parle de la terre d'Israël et de l'entrée en terre d'Israël. Alors, mon but, c'est de vous raconter en réalité l'importance de cette terre et l'importance de la sortie d'Égypte et comment est-ce qu'on peut jongler avec ces deux notions. Pour cela, je vais commencer par une Gemara dans le traité de Tahanit à la page 20. Il y a là-bas une histoire qui n'est pas facile de Rabbi El-Azhar, qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alayhim HaShalom. Et la Gemara raconte Ma'ase Sheba Rabbi El-Azhar ben Rabbi Shimron mi Migdal Gedor mi Beit Rabbo. Rabbi El-Azhar vient de la maison de l'étude, là où il a étudié. Il est sorti d'un cours. On suppose que ce cours est très élevé, puisque Rabbi El-Azhar est un grand kabbaliste, comme son papa Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la Gemara nous raconte quelque chose d'incroyable. « Ve'haya rachouv al-chamo » Il chevauchait un âne. « Umetayel al-fat nahar » Et il se promenait au bord d'un fleuve. « Vesameach simcha gedola. Il avait une joie intense. Pourquoi? Parce qu'il vient de sortir d'un cours très profond, très élevé. Et vous savez, il y a un sentiment comme ça, lorsqu'on sort d'un cours, d'avoir tout compris. Comme si tout était nain par rapport à l'importance de ce qu'on vient de goûter. Il y a des joies dans ce monde, mais la joie de la Torah, lorsqu'on comprend quelque chose de profond dans la Torah, c'est incroyable. C'est quelque chose qui nous remplit, parce que ça fait partie de notre ADN. Et lorsqu'on est dans cette simcha profonde, on peut comprendre cette simcha. Le problème, et là maintenant la Gemara va commencer à se gâter. Vehaita da'ato gassa alav. Il était tellement imprégné du cours qu'il venait d'entendre, de vivre, littéralement, que son esprit commençait un petit peu à dédaigner les choses de ce monde. Je sors d'un cours, je rencontre quelqu'un, le pauvre. Et c'est presque mon pauvre, ma pauvre, si tu sais d'où je viens, si tu sais le cours que je viens d'entendre, et je vois des gens simples comme ça dans la rue. Et voilà ce que l'Agmara nous raconte. Haïta da'ato gassa ala, lama, elle dit l'Agmara, elle dit la raison pourquoi il est arrivé à ce niveau. Parce qu'il a étudié beaucoup de Torah. C'est bizarre, hein? Normalement, quand tu étudies la Torah, tu devrais être magnifique, tu devrais être complet. Mizdamen lo Adam Echad. Et voilà l'histoire qui commence. Un homme passe à côté de lui, il est sur son âne, et la Gemara nous dit, Shehayam mechoar beyoter. C'était un homme qui était affreux, horrible, physiquement, vraiment incroyable. Amarlo, maintenant cet homme, le pauvre, il voit Rabbi Elazar sur son âne et il lui dit « Shalom Alecha Rabbi » gentiment. Rabbi Elazar le regarde, il ne lui répond même pas. « Velo herzirlo » Regardez la Gemara, elle ose raconter une histoire pareille. Si on n'était pas dans le judaïsme, on aurait caché une histoire pareille. Amarlo, une fois qu'il continue à avancer un petit peu sur son âne, il lui dit, oh, le mec, l'affreux, le vilain, comment mechoar oto ha'ish, comment est-ce possible d'être aussi vilain que toi? Regardez. Regardez ce que la Gemara ose nous raconter. C'est une réelle histoire. Shema kol bnei ircha mechoarim kamocha. Est-ce que dans la ville où tu viens, ils sont tous vilains comme toi? Terrible, hein? Alors maintenant, la réponse de cet homme, écoutez bien, ça fait mal. Amarlo eini odea. Il dit, tu sais, Rodarab, je ne sais pas s'ils sont tous aussi vilains que moi. Elle a l'air, je te conseille quelque chose, va, ve'emor la uman sha'asani, et dit, à l'artiste qui m'a fait, kama mechoar kli ze sha'asita. Comment toi, tu es capable de sortir des éléments aussi vilains que ça? Waouh. Kevan shiyada be'atmo shechata. Il a reçu un choc, Rabbi Elazar. Yarad min hachamor, il est descendu de son âne. Venishtateach lefanav, il s'est prosterné devant cet homme vilain. Amarlo mecholli, il lui a dit, est-ce que je te demande vraiment mechila, pardonne-moi. Amarlo eini mochellecha, il dit, je ne pardonnerai pas. Achetelech la uman, jusqu'à ce que tu ailles voir Akadosh Baruch Hu, qui m'a fait aussi vilain, et dis-lui à Akadosh Baruch Hu, comment est-ce possible que sortent de toi des gens aussi affreux? La Gemara continue, moi je ne vais pas vous alourdir, elle est terrible, elle est triste. Rabbi Elazar ne lâche pas cet homme qui ne veut pas lui lui pardonner, et il rentre dans la ville avec lui, et tous les gens de la ville qui voient Rabbi Elazar viennent lui embrasser la main, le tzadik, et lorsqu'il marche à côté, il dit « Vous embrassez la main à cette ordure ?» Ça, c'est les grands d'Israël, ça. Je vais vous raconter ce qu'il m'a fait. Et ça, c'est devenu une horreur. Bon, peu importe. Quand j'ai lu cette Agadeta dans la Gemara, je me suis posé la question, pourquoi les Chachamim nous racontent des histoires pareilles? Si ce n'est que j'ai quelque chose à apprendre de ça, il y a quelque chose de très profond là-dedans. Eh bien, la réponse, elle me paraît très très simple. Lorsqu'on est dans une étude de Torah, lorsqu'on grandit dans la Torah, lorsqu'on approfondit la Torah, lorsque parfois nous avons des montées, on devient waouh. Eh bien, on a des idéaux tellement hauts, des idées tellement fortes, des profondeurs, des compréhensions, des prises de conscience. Et on se dit, mais alors tout ce monde, c'est du bidon. Il n'y a rien. À quoi ça sert tout ce monde? Là, je viens de goûter la lumière de l'éternité. Qu'est-ce que je fais dans ce monde avec tous ces problèmes qu'il y a ici? Ce monde est affreux. Voilà. Vous êtes en train de comprendre en réalité l'allégorie que la Gemara est en train de nous raconter. Ce n'est pas une histoire. Même si elle a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu, ce n'est pas un problème. Je dois comprendre le secret de cette Gemara. Rabbi El-Hazar, c'est quoi? El-Hazar, c'est Dieu qui m'aide. C'est-à-dire que je suis tellement haut, je suis sur mon âne. Qu'est-ce que c'est l'âne en hébreu? Chamor. Chamor, c'est la notion de chomer, la matière. Donc en réalité, Rabbi El-Hazar, il avait l'impression qu'il était au-dessus de la matière, qu'il dominait la matière. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec ces vilains? Tous ceux qui sont sur terre, c'est des vilains. Moi, je suis arrivé à un stade extraordinaire. Il y a ici un orgueil caché. Par la Torah. Par l'étude de la Torah. Et donc, tout ce qui est superficiel à la vie, je commence à dédaigner. Et je me dis, ce monde est vil, ce monde est vide, ce monde est vilain, ce monde est affreux. Moi, je préfère rester dans les sphères célestes, dans les grandeurs des idées que je viens d'atteindre, et je n'ai rien à faire dans ce monde. Le problème, c'est que la Gemara, qui est très intelligente, parce que les sages qui l'ont écrit sont intelligents, et là, qui donne une leçon à qui? Le monde vilain va donner une leçon de vie à la spiritualité. Et c'est le monde d'en bas qui va maintenant réagir lorsque le monde d'en haut dit au monde d'en bas, mais tu sais, tu es vilain, c'est une horreur ce que tu es. Eh bien, le monde d'en bas lui dit, je te rappelle juste quelque chose. C'est que celui qui a créé le monde d'en haut, c'est le même qui a créé le monde d'en bas. Et toi, comme tu n'as rien compris à l'étude, parce que tu as l'impression que l'étude, ce n'est que spiritualité, tu n'as pas compris que la Torah, elle touche tous les éléments de ce monde, eh bien tu restais dans ton étude, tu restais très haut, et tu es en train d'insulter le monde de la matière que l'Éternel a créé, pas moins que le monde de l'esprit. Et donc ici, nous sommes face à la matière, qui donne une leçon de vie à l'esprit. Vous savez que l'esprit et la matière, ce sont des codes. On peut les appeler différemment. Par exemple, quelle est la fête qu'on vient de quitter? Hanouka. D'accord? Qu'est-ce que vous avez dans la Hanoukia? Vous avez des branches et vous avez des flammes. D'accord? Vous avez la lumière. Comment on dit une flamme en hébreu? Les Havan. D'accord? Comment on dit des branches? Kanim. Ça vous rappelle rien? Kain et Hevel. Kain et Hevel, c'est pas deux personnages de la Bible. C'est les Kanim, c'est le monde d'en bas
Kanim, Liknos, Kinyan. C'est le monde de la matière, c'est les branches, il n'y a pas de lumière, c'est vrai, c'est une branche. Mais elle attend, elle porte les havas. Maintenant regardez la Torah, l'intelligence de la Torah. La Torah nous raconte que Caïn a tué Hevel, que la matière a tué l'esprit. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que le Midrash nous raconte, c'est que avant que Caïn ne tue Hevel, c'est Hevel qui voulait tuer Caïn. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Que? C'est bon, il y a des réactions, c'est bon. Vous êtes vivant, c'est bon. Ça veut dire que l'esprit, Hevel, voulait tuer la matière, et bien on est exactement dans le même cas. Justement, la Torah nous dit, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, Vayakom Kain al Hevel Achiv. Et les Chachamim nous disent Vayakom. Qu'est-ce que ça veut dire Vayakom? Il s'est défendu. Autrement dit, Hevel voulait tuer Kain. Nous sommes donc dans le même cas de figure. L'esprit, quand il est mal géré, quand tu étudies, que tu as l'impression que tu es grand, que tu as grandi, que tu es devenu je ne sais pas quoi, eh bien la matière, on s'en fiche complètement. Regarde maintenant, je suis tellement haut, je vais tuer la matière. Et c'est la matière qui a tué l'esprit. Exactement la même chose. Mon cher Rabbeinu a quitté sa femme. Pourquoi? Pour s'occuper de l'éternel. Je vais quitter ma femme, je vais quitter mes enfants, je ne vais plus m'occuper des choses de ce monde. Je vais donner des cours, je vais être quelqu'un de grand, va m'embrasser la main. Quel danger. Danger. Ne quittez jamais ni l'un, ni l'autre. Et c'est pour ça que Hanouka, c'est une guérison, parce que qu'est-ce qu'elle fait, cette fête? Eh bien, elle unit les deux, il y a une lehava qui est portée par un kamé. Donc, Caïn et Hevel ont fait la paix. Et ce que Marianne vient de rappeler, eh bien, ça se répercute sur toute la Torah. Les frères ont voulu tuer Yosef. C'est pareil. Qu'est-ce que c'est que Yosef? Eh bien, c'est tout le monde de la matière. Mais à l'intérieur, il y a un sadique. Mais quand tu vois quoi? Un Égyptien. Donc tu as tendance à te moquer de lui. Tu te dis, mais toi, mais regarde à quoi tu ressembles. Tu n'as même pas de kippa sur la tête. Et alors? Quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans, je suis né en Israël. Je suis arrivé dans une école juive à Nice. Je suis rentré sans kippa à l'école juive. Et j'ai entendu deux petits enfants qui avaient à peu près mon âge. Je comprenais un tout petit peu le français, je ne parlais pas encore. Un qui disait à l'autre, regarde, c'est un goy. Parce qu'avoir une kippa, c'est être juif, ne pas avoir une kippa, c'est un goy. Depuis, je mets des kippotes à mes chiens, à mes chats, ils sont tous juifs. Moi, je ne savais pas, je croyais que c'était le juif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'étais israélien avec un petit peu de chouspa, je ne me suis pas laissé faire et j'ai dit à ces deux enfants, avec le français un petit peu pas très clair, je pensais que c'était les juifs qui mettaient la kippa. Je ne savais pas que la kippa faisait le juif. J'avais 15 ans. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a ici un problème très très grave. Pourquoi je vous rappelle tout ça maintenant? Mais tout simplement pour vous rappeler que nous sommes dans le mois de Shvat. Et quelle est la qualité du mois de Shvat? La terre. La terre. L'importance de la matière. Est-ce que dans la matière se cache une énergie au moins aussi grande que l'esprit? La réponse est oui. Et c'est ça le secret de la terre d'Israël que les gens ne comprennent pas. Les gens qui sont là,
ont l'impression qu'ils ont fait juste un déplacement géographique. Ils ont quitté une ville, ils sont venus ici, en Eretz Israël. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, ils sont rentrés dans un domaine où la matière, elle est plein d'essence, plein de spirituel, plein d'esprit, plein de vie, pas moins que la Neshama. À tel point que la Gemara nous dit qu'en Eretz Israël, le ciel et la terre nashkent, ils s'embrassent. Ça veut dire qu'il y a ici un chibour, un zibour, une union entre l'esprit et la matière. Et ça, c'est la beauté de cette terre. Et ça, c'est la beauté de la fête que nous allons marquer dimanche prochain. Enfin, celui qui vient, dans une semaine, Tour Shvat, le 15 du mois de Shvat, qui n'a jamais été fêté comme on le fête aujourd'hui, celui qui l'a mis en place, cette fête, comme on la vit aujourd'hui, c'est le Hari HaKadosh. Il y a 450 ans, à Tzfat, il y avait un kabbaliste, un des plus grands que le monde d'Israël ait connu, le Hari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Alav Shalom, et lui a mis en place l'importance, parce qu'il a voulu nous faire passer un message dans les générations à venir, de l'importance de la terre d'Israël et des fruits de cette terre, à tel point que le Rav Rabbi David Abraham Azoulay, le Chida, dit que la manne qui tombait du ciel dans le désert, eh bien, la même qualité spirituelle de la manne, vous savez quelle bénédiction on faisait sur la manne ? Hamotzi lechem min ha-shamayim. Pas Hamotzi lechem min ha-aretz. Eh bien, la manne qui descendait du ciel, nous dit le Harizal, cette même bénédiction se trouve dans une petite tomate que tu fais pousser en Eretz Israël. Quand vous mangez un fruit, un légume de la terre d'Israël, vous avez la même intensité que la manne qui descendait du ciel dans le désert. Incroyable. Tout ceci pour vous dire, et vous voyez comment les sages, par une histoire que vous n'allez pas oublier, parce que le cours, vous allez peut-être oublier, mais l'histoire que je vous ai racontée au départ, c'est fini, c'est marqué. Parce que peu importe l'âge qu'on a, on aime tous des histoires. En plus de ça, vous êtes en train d'aller dormir là, bientôt. Donc c'est l'histoire qu'aime du petit papier avec les bretelles qui est venu vous raconter une histoire avant d'aller dormir. C'est-à-dire ? Donc vous allez rester gravé avec cette histoire. Je vous garantis que vous n'allez pas l'oublier, cette histoire. Parce qu'il y a ici maintenant un dialogue qui s'est mis en place entre l'aneshama et l'esprit. L'aneshama, vous avez compris, Rabbi Elazar, le corps, c'est affreux, Misken. Par rapport à l'aneshama peut se moquer du corps en lui disant, mais t'es horrible, regarde-moi, je viens du ciel, je suis plein d'énergie, toi, qu'est-ce que tu fais, tu es vieille, tu es vieux, tu es en train d'avoir des rides partout, tu ne ressembles à rien. Moi, je reste toujours fraîche. Eh bien, il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, la plus grande leçon que la Neshama reçoit du corps, c'est la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts ? C'est la Neshama qui est obligée de revenir dans le corps. Ça veut dire qu'à la fin des temps, le corps ne va plus mourir comme aujourd'hui. Le corps va rester éternel. D'ailleurs, la médecine est en train de s'approcher de ça. Dans 20 ans, les gens vont commencer à vivre 150 à peu près. Ça va date. C'est déjà maintenant, c'est scientifique. Ça va date. Et sans les problèmes de Alzheimer et tout ça, ça veut dire que les gens vont commencer la longévité de la vie d'ici 20 ans à peu près. Et là, aujourd'hui, la vraie médecine, la grande médecine et tous les scientifiques sont en train de travailler sur quoi ? Sur le fait que l'homme ne meurt plus. Okay. C'est exactement les recherches d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y aura assez de place. Ne vous inquiétez pas parce qu'il va se passer d'autres choses. Regardez, il y a ça qui les intéresse. C'est tout le... Alors, jette le cours.
La médecine dit quand même qu'il y a un plafond.
La médecine. Oui, mais à Kadosh Baruch Hu, il dit qu'il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire, la mort que l'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu faute. S'il n'y avait pas eu faute, il n'y aurait pas eu de mort. C'est écrit dans le verset. Qui beyom acholcha mimeno motamut. Mais si tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Donc on a mangé, on a apporté, on a amené la mort dans le monde, et là maintenant, l'humanité va aller vers un monde où il n'y aura plus de mort, et c'est l'une des fonctions aussi du roi Mashiach qui est en train de se préparer à venir. Donc, vous avez compris en fait la première partie de notre cours. Et ce qui est bizarre, c'est que la Neshama demande pardon au corps. Que Rabbi Elazar descend, se prosterne, c'est-à-dire il se met à la portée du corps. Et tant que la Neshama ne se met pas à la portée plus basse encore que le corps, en disant « j'ai pas compris, je n'avais pas compris l'essentiel de mon cours », donc cet affreux-là, en réalité, il a donné à Rabbi Elazar un cours beaucoup plus grand que ce que Rabbi Elazar avait étudié avant de venir. Donc il a eu deux leçons ce jour-là. Une leçon qu'il a trompé complètement parce qu'il n'a pas compris, il n'avait pas compris que la Torah, elle englobait le tout. Et donc c'est très important de faire très attention à Rabotai. Beaucoup d'entre nous, en devenant religieux, commencent à négliger le corps. Parce que la Torah, soi-disant, c'est l'esprit. C'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël, sur la terre d'Israël, comprennent cette leçon-là. Et aujourd'hui, nous avons, Baruch HaShem, des guerriers, des soldats qui sont saints, et au niveau de leur corps, et au niveau de leur esprit. Et c'est ça qu'il faut étudier, c'est ça, comme ça qu'il faut éduquer. Il ne faut pas avoir honte de notre corps, comme il faut respecter notre esprit. Et les deux ensemble doivent se marier, c'est un mari et une femme. La Neshama est un mari, le corps est une femme. D'ailleurs, la Gemara nous dit « Ishto kegufo ». Ça veut dire « ma femme, c'est mon corps ». Donc je dois respecter mon corps, parce que c'est la Neshama qui respecte le corps. Et le corps respecte la Neshama. Et il y a ici une union extraordinaire entre les deux. Tout ceci, Rabotai, pour nous dire que dans le mois de Shvat, nous traitons de ce sujet énorme qui s'appelle la sortie d'Égypte. Alors, d'après vous, c'est quoi la sortie d'Égypte ? On a quitté un pays, on a quitté sa maison, j'ai quitté mon pays. Hein ? Pardon ? Création d'une nation. Déjà, première clé, madame a raison, pourquoi toutes ces plaies en Égypte ? Akadosh Baruch Hu n'a rien à faire de nous raconter une histoire avec des plaies. Il frappe le pharaon, il frappe l'Égypte, le sang, les grenouilles, c'est quoi ça ? D'ailleurs, faites attention, ne mangez pas des chauves-souris. C'est ça le corona. C'est de ça qu'est venu le virus. Des gens qui mangent des chauves-souris, des chiens. La pauvre, la bière, qui s'appelle, elle a pris un coup, hein. À mon avis, tu devrais leur téléphoner pour porter plainte. Il faut remonter le truc. 50-50, hein. Ça veut dire que nous sommes à Botaï. À Botaï. La Géoula, ce que vous entendez toujours, la Géoula, la Géoula, la Géoula. Eh bien, c'est la capacité d'abord à sortir d'Égypte. Alors que c'est quoi la sortie d'Égypte ? C'est quoi la sortie d'Égypte ? Madame a dit, c'est d'abord retrouver ce qui est caché à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de nous ? Un peuple. À l'extérieur de nous, il y a un homme, une femme, un individu. Mais à l'intérieur de nous, il y a une nation. D'ailleurs, quand est-ce que Abraham découvre cette nation ? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu ? L'air ? L'écha, c'est ça veut dire l'écha ? Va vers toi, rentre. Rentre à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu trouveras là-bas ? Ve'etra l'égoï gadol. C'est très bizarre parce que la paracha de ce Shabbat qu'on va lire après-demain, elle s'appelle comment? Bo. Qu'est-ce que ça veut dire Bo? Viens. Mais viens où? Bo El Paro. Bo El Paro. Donc Dieu dit à Moïse, ne va pas chez Paro. Viens chez Paro. Ça veut dire que Dieu, il est où? Chez Paro. Dieu, il est chez Paro, puisqu'il dit à Moïse, viens. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que je suis en train de vous raconter? Eh bien, tout simplement, Paro, c'est quoi Paro? C'est le roi d'Égypte? Paro, ça vient du mot Hafra'a. C'est-à-dire, les Afria, dérangement. Ça, tout ce qui te dérange dans ta vie s'appelle Paro. Les Mafria. Paro, c'est les lettres de Mafria. Vous avez des choses qui vous dérangent dans la vie? Ouais. D'accord? Eh bien, on est tous remplis de Paro. Mais, Baruch HaShem, HaKadosh Baruch nous a donné l'antithèse. C'est-à-dire le médicament. Comment il s'appelle? Moshe. Vous avez deux personnages ici. D'accord? Donc si je trouve Moshe, j'arrive à sortir de tous les embêtements que j'ai dans la vie. Or, si maintenant je vous redis ce que je viens de vous dire, Bo El Paro, viens chez Paro. Donc, Kadosh Baruch Hu, maintenant avec mon explication, ça veut dire rentre dans tes problèmes, rentre dans tes soucis. Quelle est notre tendance naturelle quand on a un souci? De se sortir, de partir, de nous sauver. D'accord? Alors que là, la Torah te dit, attention, si tu ne fais pas un travail de comprendre et d'approfondir ton problème, pourquoi à chaque fois ça revient? Parce que tu n'as jamais géré vraiment le problème. Tout ce qui t'intéresse, c'est qu'à chaque fois que tu retrouves ce problème par haut, qu'est-ce que tu fais? Tu te sors. Et donc tu es tout le temps stressé. Comment on dit être tendu en hébreu? La route, ma femme, la route. Moi, c'est la route. C'est dehors. C'est la même chose. La route, c'est être à l'extérieur, la route. Si je suis rak la route, azami la route. Tu veux être tranquille, qui est du fin. Bo El Paro. Quand vous avez mal à la tête, qu'est-ce que vous faites? Un cachet, directement. Pourquoi? Pour se sortir du problème. J'ai pas le temps d'avoir des problèmes, ça suffit, j'ai mal à la tête, 5 minutes. Est-ce que vous avez fait un jour un travail de comprendre pourquoi je sens ma tête? Vous savez que normalement, vous ne sentez pas votre tête. Tant que vous n'avez pas mal, vous ne savez même pas qu'elle existe. Vous vivez tranquille. D'ailleurs, dans la Torah, comment on dit avoir mal à la tête? Hachash berosho, celui qui sent sa tête. Ça veut dire que le seul moment où je sens que j'ai une tête, c'est quand j'ai mal. Incroyable ça. Hein? Ça veut dire quoi? Que tu as mal à la tête parce que on veut que tu la sens. Et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois rentrer beau. El Paro, rentre chez le Pharaon. Rentre dans tes problèmes, essaye de les analyser. Va voir un ami, va voir quelqu'un, va voir une amie, va voir quelqu'un qui va t'aider à analyser ton problème. Pourquoi à chaque fois, c'est comme un rituel qui recommence? Pourquoi? Mais tout simplement, nous dit le Hari Akadosh, que j'ai cité tout à l'heure, parce que l'Égypte est une tête. Voilà. Et Eretz Israël, ce sont les jambes. Incroyable. Incroyable, comme ça nous dit le Hari Akadosh. Et quelle est la différence entre la tête et les jambes? Il y a un élément qui coince. Ça s'appelle le tzavar. Donc le mot tzavar, c'est le mot tzav qui est dans le mot Mitzrayim. Donc Mitzrayim, c'est les trois têtes. Écoutez maintenant jusqu'au bout, regardez bien.
Quelle est la partie maintenant où tout ceci se coince? Tout ce que j'avais dans la tête, ce sont mes idées. Normalement, elles doivent descendre où? On l'a dit tout à l'heure, au corps. Si la tête néglige le corps comme l'autre disait au corps, toi tu es vilain, moi j'ai des esprits, j'ai des idées, mais toi tu es nul. Mais qui va coincer tout ça? Le Saba. Mais qui est le roi du Saba? Paro. Paro, rappelez-vous. Où se trouve en réalité la clé de toute la tête qui est censée faire passer toutes les idées vers le bas? Il y a Femeros, ici. Les hommes, qu'est-ce que vous mettez ici tous les matins? Le nœud des filines, rendre le dalet. Le SMA12. Maintenant, regardez comment c'est important. En hébreu, comment ça s'appelle cette partie? Oref, les mêmes lettres que Pharo. Pharo, c'est le Oref, c'est la nuque, Rabotai. Attention, attachez vos ceintures, c'est pas fini. Il y a combien de serviteurs chez Pharaon? Trois. Sarah Mashkim, Sarah Ophim, Sarah Tabachim. La trachée, l'œsophage et la... Exactement pareil. Sarah Mashkim, celui qui me sert à boire. Sarah Ophim, celui qui me sert à manger. Et là-haut, qui fait passer le sang, ça, à sa patrie, qui me fait tout descendre. Incroyable. Donc la Torah est un code. Pharao, c'est le roi, il se trouve dans la nuque, il coince ici, il y a une clé, pour ne pas faire passer par les trois serviteurs qui sont là, tout ce que j'ai dans la tête au niveau de mon corps. Donc dès qu'il y a une idée qui va naître dans la tête, qu'est-ce qu'il va faire Pharao?
Il va la noyer.
Kol haben ha'ilot. À chaque fois qu'un enfant va naître, qu'est-ce qu'il fait? Il le relance dans l'eau. Il le remet dans la tête. Vous avez compris? Donc, sortie d'Égypte, c'est quoi? Vous n'avez pas compris?
Quand vous avez des idées, et que vous n'arrivez pas à vivre vos idées, parce que vous n'arrivez pas au niveau des gens, eh bien, vous êtes coincé en Égypte. Donc, qu'est-ce que c'est que la tête? Regardez la forme qu'elle a. C'est un ballon. Il n'y a pas pire que de tourner en rond. Mettez une fourmi sur un ballon, elle devient folle la pauvre. Un petit sa vie, elle va tourner jusqu'à qu'elle meure. Donc en réalité, l'Égypte c'est quoi? C'est un ballon, mais qui n'a pas de direction. C'est un cercle, qui n'a pas de sens. Et donc, sortir d'Égypte, c'est donner un sens à sa vie. Et où il est ce sens-là? C'est la rectiligne. C'est Eretz Israël, c'est les jambes. C'est arriver à donner à la tête quelque chose qui va activer cette tête, qui va le mettre en marche. Ça nous rappelle l'histoire de tout à l'heure. L'esprit qui dit, moi j'ai pas besoin de tout ce qui est en bas. L'essentiel c'est que je viens de sortir d'un cours, c'est très important la Torah pour moi. Donc c'est l'esprit, 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 à tel point que si je demande aux gens, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est spirituel, ils me disent oui. Mais c'est n'importe quoi, Kadosh Baruch Hu n'est pas spirituel. Kadosh Baruch Hu c'est l'infini, béni soit-il. Tu veux le coincer dans la spiritualité? Il y a tout, c'est tout, Kadosh Baruch Hu c'est la vie. Ça englobe le corps, l'esprit, la neshama, tout. Allez-y, allez-y madame, allez-y. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Juste dites-lui que j'arrive aussi. Vous avez compris? Toi, tu as l'air intéressé, toi. Il est sérieux, hein? Sérieux, celui-là, il est sérieux, celui-là. Prenez exemple. Très, très sérieux. Comment tu t'appelles? Tu vois, voilà. C'est à cause de... Attention, hein? En tout cas, on est sûr que Adam et Ève n'étaient pas des Chinois. Parce qu'ils auraient mangé le serpent. Il n'y aurait pas eu de problème. Hein? C'était une plaisanterie. D'ailleurs, comme la Torah se lit sans point, au lieu de lire Moshe Kibel Torah Mi Sinai, on peut dire Moshe Kibel Torah Mi Sinai.
Moshe a reçu la Torah d'un Chinois, Sini, au lieu de Sinaï. Quand il n'y a pas de point, si tu donnes à un enfant à lire, il va te dire Moshe ki be Torah mi Sini. Adem Lecha. C'est en français, hein? C'est le français d'aujourd'hui, non? Adem Lecha, c'est en français. Vous avez compris comment ça marche, le système? Donc sortir d'Égypte, c'est arriver aux jambes. Quelle est la première manœuvre pour arriver aux jambes? Avant que ça traverse, si c'est coincé ici, quelle est... J'ai une porte de sortie? Oui, la bouche, il y a fait merde. Donc en réalité, on nous donne cette clé. On nous dit, mais si Paro, il te coince et que toute ta nuque et tout ton cou est coincé, mais parle, ouvre ta bouche, Pessah. Pessah, qu'est-ce que ça veut dire Pessah? La bouche qui raconte. Et si tu veux même un livre, eh bien parle, Haggadah, et Haggadah, c'est le Pessah. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu nous a donné déjà la solution. Donc, quelle est la plus grande mitzvah à Pessah? Raconte, Haggadah, c'est le Pessah. Donc tout le monde parle. Donc c'est une thérapie de groupe. Vous êtes tous autour de la table. Toutes les guerres mondiales de la famille, ça se règle à Pessah. Okay? C'est presque ça, hein? À commencer par, ah, c'est pas le même texte. Ah, Dada n'est pas le même. Toi, moi, chez ma mère, on faisait comme ça, et le plateau, il passait ici, et pas par là. Alors, je vous rassure, tout est bon. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de halakha. Toutes les coutumes, elles sont bonnes. Tout ce que vous faisiez, c'était très bon. Mais en réalité, au-delà de la plaisanterie, vous avez compris le sérieux de ce chiour. C'est un cours sur la vie, Rabotai. D'ailleurs, ceux qui n'arrivent pas à parler, qui deviennent muets, comment on dit être muet en hébreu? Ilem. Donc, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alim. C'est la même chose. De la violence. Alimut. Et le mutisme, ilmut. C'est les mêmes lettres. Ceux qui n'arrivent pas à exprimer par la bouche passent par les mains. Toujours. Et donc la plus grande des thérapies, c'est la bouche. Et ceux qui n'arrivent pas, ils ont du mal à dire. Donc c'est la maladie. La maladie, c'est ceux qui n'arrivent pas à exprimer. C'est marqué. Kol ha-machala sher samti b'mitzrayim, l'Égypte, c'est la maladie. Velo sham'u el Moshe mikotzer ruach. Moshe Rabbeinu, il donnait des cours en Égypte. Il n'y avait même pas Minyan. Moshe Rabbeinu, imaginez-vous maintenant, Kaftor Acholot exprime. Shiur Moshe Rabbeinu, pas Yoel. Moshe Rabbeinu, combien il y aurait eu ici? Des millions. Eh bien, en Égypte, Moshe Rabbeinu, le pauvre, il allait avec une agrafeuse, sur les arbres, c'est Shiur de Moshe Rabbeinu ce soir. Personne ne venait au Shiur. Personne ne venait écouter Moshe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement embêtés par le pharaon. Ils étaient étouffés. Quelqu'un qui est étouffé dans sa vie, il n'est pas disponible. Il n'est pas fanouille. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas ingurgiter. Il ne peut pas intérioriser. Il ne peut pas vivre. Et donc, il meurt. Il meurt de quoi? D'un manque de clarté. Comment ça s'appelle un manque de clarté? C'est la paracha de la semaine. Matat. Combien de personnes sont mortes pendant la plaie des ténèbres? 80%. C'est terrible. Sur 100 personnes, 80 sont mortes dans le noir. Ça veut dire qu'elles sont mortes dans le noir. Il faisait nuit, alors elles sont mortes. Elles sont mortes d'un manque de clarté dans leur vie. C'était tellement sombre dans leur vie, c'était tellement coincé, c'était tellement j'ai plus d'avenir, j'ai plus rien à faire, que je préfère mourir, je m'endors et c'est fini. C'est une dépression. Et donc il faut faire très très attention le mois de Shvat,
de sortir de cette dépression et d'arrêter l'amertume. Comment on arrête l'amertume ? En mangeant des dattes. Vous saviez ça ? Les kabbalistes nous disent que si vous êtes un petit peu angoissé, mangez des dattes et pensez tout simplement au mot date en hébreu. Comment on dit date en hébreu ? Tamar. Qu'est-ce que ça veut dire tamar ? Tam, mar. La fin de l'amertume. Sympa ? Tam, mar. Ça veut dire que dans le mot date, tamar, il y a la fin de l'amertume. Et c'est vrai qu'en mangeant des dates, et surtout le soir ou le matin, pas l'après-midi, l'après-midi dangereux, dit le Rambam, matin ou soir, pas l'après-midi, parce qu'il y a un problème au niveau de l'estomac, il y a plein de secrets dans la Torah. Par exemple, quand vous allez dormir tout à l'heure, si vous avez mangé, commencez par dormir sur le côté gauche. Pourquoi ? Parce que la digestion se fait et elle chauffe. Il y a un élément qui va chauffer tout le système digestif. Vers minuit comme ça, naturellement, vous allez vous tourner. Comme ça, vous faites les deux coups. Ça s'appelle dormir sur les deux oreilles. Au début, je ne comprenais pas comment on pouvait. Il y a qu'en français, hein, moi je suis israélien. Alors on me disait des expressions, dormez sur ses deux oreilles. J'étais là, je suis en train de dire, mais comment ils font ça ? Je ne comprenais pas. J'ai dit, peut-être qu'ils font comme ça avec le coussin. Il y a plein d'expressions que je ne comprends pas, moi, en français. Hein. Mettre les jambes à son cou. Pas mal, c'est la journée des juifs, en fait. Tu fais le lien entre les jambes et le cou. Pas mal, ça. Partir sur des chapeaux de roue. C'est beau, ça. Non, ça, c'est encore compréhensible. Ben oui, avoir les yeux plus grands que le ventre, ça veut dire que tu veux des choses que ton ventre ne peut pas digérer. Mais le reste, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Bon, alors les chansons, c'est terrible, les chansons. C'est une horreur, hein. C'est cruel. Les enfants, à l'époque, ils sont traumatisés. Les pauvres, ils finissent tous dans le ventre de quelqu'un, ils sont bouffés, ils sont... Ou alors ils sont remplis d'huile à... J'apprends dans... Je sais pas quoi... Le pauvre, il n'en peut plus, le gosse. Je le prends par la queue, je la donne à ce monsieur. Le mec, il dit non, je le veux pas. Alors... Imaginez-vous un enfant intelligent, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bin? Bon, vous rigolez trop, hein, je vais te faire augmenter. Hein. C'est une bonne thérapie, hein. C'est de ma poche. Donc, moralité, il faut pénétrer dans le problème pour pouvoir sortir de ce problème, la quintessence et la lumière. Quand est-ce que les enfants d'Israël ont profité de l'Égypte ? Pendant la plaie des ténèbres. Ils sont rentrés au fin fond du noir et ils ont pris là-bas quoi ? Klekeses les Zahav et Smalot, c'est-à-dire toutes les étincelles divines. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez une angoisse, au lieu de vite vous sauver dehors, parce que vous allez être juste tendu, la route, rentrez dedans. Bo el paro. Faites ce travail-là. Et quand vous êtes dedans, vous essayez de vivre la situation. Je vis mon angoisse. D'accord, je suis angoissé. Maintenant, j'essaye, dans mon angoisse à l'intérieur, de trouver, il y a un point de lumière. C'est à ce moment-là que je vais le voir. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas voir la lumière s'il n'y a pas autour du noir. Donc, je vais profiter du noir pour voir le plus petit grain de lumière. Et c'est là-bas que je vais le sortir, c'est là-bas que je vais le trouver. Donc, moralité, Akadosh Baruch Hu nous donne des fois des moments d'angoisse dans la vie, où vous pleurez beaucoup, où vous n'êtes pas bien dans votre peau, où vous avez l'impression que vous avez raté votre vie, mais tout ceci pourquoi ? Juste pour vous permettre de trouver le point de lumière, et de là-bas vous allez tirer, et vous allez voir qu'en réalité vous allez renaître. Et c'est ça tout le secret de la sortie d'Égypte. C'est une guérison, et le mois de Shvat, savez que c'est les initiales, Shiyu Besorot Tovot. Shiyu Besorot Tovot, Shvat. C'est-à-dire que c'est un mois où je dois aller au fin fond de la matière. Parce que le signe astrologique de ce mois, c'est le Verseau. Gli. Et qu'est-ce que c'est que ce Verseau? Eh bien, c'est creuser un puits et aller chercher au fond du puits l'eau. Eh bien, quand tu es au fond du puits, au fond du trou, au fond de ta vie, tu ne sais pas à faire et tu es en train de te noyer, glou, glou, eh bien, tu vas prendre ce seau d'Élie et tu vas aller puiser au fin fond de la terre. Et c'est pour ça que nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée? Ils creusaient des puits. Et les Philistins, qui sont juste nos voisins d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils recouvraient ces puits. Ça veut dire, eux, ils s'occupent juste de noircir le monde, et nous, on s'occupe de creuser la matière pour trouver la lumière qui est cachée. Donc je vous souhaite à tous, Bézard Hachem, d'être dans cet optimisme. Et même si nous passons une période qui n'est pas facile au niveau global, au niveau de la planète même, au niveau cosmique, et bien entendu au niveau individuel, c'est normal, ça agit sur tout, n'ayez pas peur, un petit peu de patience, rentrez à l'intérieur, essayez de comprendre les tenants et les aboutissants, où est-ce que je suis pas très bien dans ma vie, qu'est-ce que je dois équilibrer, et profitez de ces moments-là pour trouver les étincelles de lumière. Elle aussi, elle écoute beaucoup. Bezrat Hashem, ça va vous servir dans votre vie, dans notre vie, et vous allez voir que Bezrat Hashem, nous allons nous voir bientôt dans des situations de simcha intense, avec une prise de conscience et une connaissance de la lumière qui était déjà là, mais qu'on avait du mal, parce que quand on est paniqué, on fait rien de cohérent. Vous avez déjà vu quelqu'un de paniqué? Il prend des clés, il repose, il ouvre le frigo, il referme. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Rien, déjà. Donc, calmez-vous, concentrez-vous. Un conseil, allez, même si vous n'avez plus de sang, allez au mikvé, les femmes, une fois encore dans votre vie. Même sans bracha, allez une fois au mikvé, c'est très important parce que vous allez concentrer et retrouver une identité. Et les hommes, bien entendu aussi, allez au mikvé avant Shabbat, vous allez voir, ça concentre complètement la personne, ça la remet. Mikvé, ça vient du mot tikva, c'est l'espérance. Et l'espoir. Bezrat Hashem, je nous souhaite à tous une bracha, une atzlacha, et que le shrout du tzadik, Rabbi Yisrael Abouchatzir, alav shalom, yagen ba'adenu, vishmor al kulanu mikol ra, ten lanu bracha v'atzlacha, parnasa me'ula min ha-shamay, sheket nafshi, izun, refua, ri'ut, ובעזרת השם, הרמוניה בכל אשר נעשה, נשכיל ונצליח.